enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Cette série de traductions intitulée « Trouvez votre place » comprend trois études. Voici la troisième, « Formé par Dieu en tant que disciple ». Le thème de ce message est « Formé en tant que disciple par Dieu ». C'est donc un message sur la formation de disciples. Il s'adresse davantage à ceux qui sont enseignés plutôt qu'à ceux qui font la formation. J'ai ajouté « par Dieu » parce que je crois qu'il est essentiel de ne pas laisser Dieu en dehors du processus d'enseignement. La véritable formation de disciples vient toujours de Dieu. Le verset 13 dans Ésaïe 54 l'affirme. Et je crois qu'il s'adresse à l'Église, au peuple de Dieu. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité, ou la paix, dit la version Darby, de tes fils. Tous tes enfants, sans exception, seront disciples de l'Éternel. » Ou, dans la version Darby, « Tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants. » J'aimerais vous dire que le processus d'être enseigné devrait vous apporter une grande paix. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous demander si vous êtes bien dans la volonté de Dieu et si vous êtes en train d'être enseigné par lui. Il serait peut-être bon, avant d'aller plus loin, d'aborder la définition. Qu'est-ce que préparer des disciples ? Selon moi, c'est former et équiper quelqu'un pour le service de Dieu. Si vous écoutez ce message, vous le faites certainement dans le but d'apprendre. Cela vous concerne donc de façon très concrète. Remarquez que je n'ai pas dit enseigner, mais former. Il y a une différence. L'enseignement communique une connaissance ou une instruction. La formation va plus loin. Elle fait en sorte que les personnes mettent en pratique ce qui a été enseigné. Dans le cadre scolaire, par exemple. Nous nous attendons à ce que les instituteurs enseignent les enfants. Mais à la maison, que font les parents? Ils sont supposés éduquer leurs enfants. La plupart des parents, aujourd'hui, manquent à leur devoir. Pourtant, c'est leur rôle. Non seulement de dire à l'enfant ce qu'il doit faire, ce qui est assez facile, comme par exemple « lave tes mains » avant de passer à table. Mais il incombe aussi aux parents de s'assurer que l'enfant l'a bien fait. Ce n'est pas si simple. Non seulement préparer un disciple, c'est le former, l'éduquer, mais c'est aussi l'équiper. Quelqu'un qui a été correctement préparé, non seulement sait comment accomplir sa tâche, mais doit également avoir les moyens, que j'appellerai équipement, pour ce faire. Si vous étudiez le ministère de Jésus, vous verrez qu'il a équipé très spécifiquement ses disciples. Avant d'envoyer les 12, il ne les a pas seulement pris avec lui pour les former, mais il leur a aussi donné la puissance et l'autorité pour chasser les démons et pour guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. C'était leur équipement. Les envoyer préparés, formés, mais sans leur équipement, auraient été les voués à l'échec. Vous me suivez? C'est pourquoi notre message précédent portait sur certains outils de cet équipement. Vous souvenez-vous de ce que c'était et comment nous les avons appelés? Charismata. Exactement. J'aimerais maintenant vous faire remarquer qu'il existe beaucoup de formations qui se situent vraiment à un niveau purement humain. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement de personnes qui enseignent à d'autres ce qu'elles savent. J'ajouterai que cela ne produit pas les résultats dont l'Église a besoin. Nous ne devons avoir aucun doute que même si nous sommes enseignés par des personnes, Dieu est à l'origine de cette formation. Et le résultat de cet enseignement doit toujours être de nous édifier dans notre relation personnelle avec Dieu. Si l'enseignement se passe simplement à un niveau humain, il produira l'une ou l'autre de ces choses. Dans l'Église, il produira une forme de secte. Et si c'est hors de l'Église, il produira une autre forme de secte. Et il nous faut admettre que des sectes se trouvent dans l'Église aujourd'hui. La raison en est que Dieu n'a pas été dans le processus de formation, mais que ce processus a pris naissance à un niveau humain. Si vous regardez dans Acte 20 au verset 29 et suivant, vous trouverez certaines paroles que Paul a données aux anciens de l'église d'Éphèse, qui était une église née de son ministère. Il parlait à des hommes qu'il aimait, des hommes qu'il avait formés, des hommes qui avaient des positions de responsabilité dans l'église. Pourtant, il leur donne un avertissement très solennel. Il leur dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Vous savez bien sûr que le loup est l'ennemi du mouton. « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, c'est-à-dire du milieu des anciens, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Ici, je pense que nous avons les deux processus. Soit des gens qui viennent de l'extérieur, soit ceux qui se lèvent de l'intérieur, dans l'église et parmi les dirigeants, et qui produisent des sectes. Les sectes sont des groupes de chrétiens qui se sont quelque part coupés du corps de Christ et qui sont devenus de façon indépendante quelque chose par eux-mêmes. Le mot secte vient du latin coupé. Cela signifie quelque chose de coupé. L'autre racine du terme en latin est cultus, qui signifie un système d'adoration qui a donné le mot culture. C'est intéressant parce que cela nous dit que la culture est le produit d'un système d'adoration. Dans le monde actuel, il y a beaucoup d'étranges cultures qui sont des cultes rendus par des peuples qui ne sont ni inspirés ni dirigés par Dieu. J'aimerais donc vous redire de façon plus catégorique, et à partir de mon expérience personnelle, que vous devez être tout à fait sûr que la source de votre formation est plus élevée que le niveau humain. Et je crois que la marque en est la paix. Tous vos enfants, ou disciples en hébreu, seront enseignés par l'Éternel. Grande sera la paix de vos enfants. Bien maintenant, si vous voulez être formé en tant que disciple par Dieu, vous devez remplir ces conditions. Si vous vous inscrivez dans une école biblique, vous devez remplir un questionnaire et inscrire votre nom, prénom, d'où vous venez, quelles sont vos qualifications. Vous devrez probablement aussi avoir une recommandation d'un serviteur de Dieu ou d'un pasteur. Ça, c'est pour étudier dans une école biblique. J'aimerais vous dire avec douceur et amour qu'il est possible d'être accepté dans une école biblique tout en ne l'étant pas dans l'école de Dieu. Parce que Dieu est exigeant sur le choix de ses étudiants. Ce ne sont pas tous ceux qui entrent dans un collège biblique qui sont des étudiants de Dieu, ni tous ceux qui passent par un séminaire qui sont des étudiants de Dieu. En fait, mon observation, c'est que très peu le sont. Alors, que regarde Dieu? La réponse est en premier lieu le caractère. Avant toute autre chose, et je vais vous proposer trois traits de caractère qui sont essentiels. Premièrement, l'engagement à l'obéissance. Je ne crois pas que Dieu puisse faire des disciples de ceux qui ne s'engagent pas. Tant que vous êtes satisfait de faire de petites expériences sans beaucoup de sérieux, vous n'obtiendrez pas grand-chose de Dieu, selon moi. Une jeune femme que je connaissais bien m'a demandé un jour de lui remplir un formulaire pour entrer dans un collège biblique. Je lui ai rempli, mais elle n'est jamais venue le rechercher et n'a toujours pas fait ses études. J'ai tendance à penser que son problème est un manque d'engagement. Seul celui qui s'engage est qualifié pour Dieu. Regardons dans l'évangile selon Jean au chapitre 7, verset 17. Jésus dit « Si quelqu'un va faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Quel est le mot-clé? Si quelqu'un veut faire sa volonté. Je préférerais dire « si quelqu'un a la volonté de faire sa volonté, alors il connaîtra. » Dieu enseigne ceux qui s'engagent à faire sa volonté. Il n'enseigne pas ceux qui ne s'engagent pas. C'est pourquoi un grand nombre de chrétiens vont à l'église des années et n'apprennent jamais vraiment quoi que ce soit parce qu'ils ne se sont pas engagés. Jean 13, verset 17. Jésus dit à ses disciples, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Écoutez, mes amis, ce n'est pas ce que vous savez qui vous rend heureux. En fait, cela peut vous rendre extrêmement malheureux. C'est seulement ce que vous savez et que vous pratiquez qui peut vous rendre heureux. C'est faire qui vous rend heureux. J'ai entendu l'histoire d'une petite fille qui, dans une famille, avait été invitée à participer au temps d'études bibliques familiales. Et elle ne voulait pas y aller. On lui a demandé pourquoi. Alors elle a répondu « J'en sais déjà beaucoup plus que je n'en fais. » C'était un trait de sagesse. Qu'en pensez-vous ? Vous n'avez pas appris plus que ce que vous faites ou mettez en pratique. Si vous savez, heureux êtes-vous si vous le pratiquez. C'est l'action qui compte et elle fait suite à l'engagement. La deuxième condition, c'est l'humilité et la crainte de l'Éternel. Voyons le psaume 25, quelques versets, versets 8 et 9. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Nous devons nous rappeler que c'est la grâce de Dieu qui nous enseignera toutes choses. Le matériau que nous sommes est peu prometteur au départ. Nous sommes pécheurs, nos vies ont été corrompues par le péché et sont tortueuses. Pourquoi Dieu devrait-il se préoccuper de nous? Parce qu'il est bon et droit. Mais nous devons nous souvenir que c'est sa grâce qui est à l'œuvre tout au long du processus. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Une autre traduction dit « doux ». Ainsi, Dieu enseigne celui qui est humble ou doux. Et je ne crois pas qu'il enseigne les autres. Ou alors, s'il les enseigne, c'est d'une façon totalement différente, en leur donnant de sévères leçons. Certains doivent apprendre en passant par des choses très dures. Ce sont ceux qui ne veulent pas apprendre par l'humilité. Puis, au verset 12, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » La crainte de l'Éternel est essentielle. Si vous n'avez jamais étudié ce sujet, je vous recommande de le faire. C'est fascinant. Prenez une concordance et lisez tout ce qui s'y rapporte. La plupart des passages se trouvent dans les Proverbes. Selon moi, rien d'autre n'amène autant de promesses de bénédiction que la crainte de l'Éternel. Le livre des Proverbes dit à ce propos, et c'est juste un exemple, « Celui qui la possède est satisfait et n'est pas visité par le mal. » Pensez-y, soyez toujours satisfait et jamais visité par le mal. Quelles sont les conditions? Craindre l'Éternel. C'est un sujet très riche. Cela ne veut pas dire une peur servile, mais une crainte révérencieuse, une immense considération. Je la vois un peu comme cela. Imaginez que vous vous trouvez au sommet d'une belle et magnifique montagne, un peu comme celle d'Hawaï. D'un côté, il y a une falaise escarpée, et en bas, l'océan. Quelqu'un a aimablement mis une rambarde pour vous éviter de passer par-dessus bord. Vous pouvez donc vous tenir debout sur la falaise et admirer le paysage extraordinaire autour de vous. Vous êtes tout à la fois émerveillé et excité. Puis, vous vous regardez en bas de la falaise. Vous vous penchez un petit peu par-dessus la rambarde. Et vous savez que si vous vous penchez davantage, vous finirez en bas. À cette idée, votre estomac se noue. Pendant un instant, vous avez un sentiment de peur. Pour moi, c'est semblable à la crainte de l'Éternel. Elle vous transporte sur cette belle montagne et elle vous montre tout. Vous pouvez tout posséder, jouir de tout, mais n'oubliez pas qu'il y a une falaise. Dieu a mis un garde-fou, là. Mais si vous êtes présomptueux et que vous vous penchez trop, vous finirez mal, ce sera le désastre. La troisième condition que je vois, c'est la persévérance et la patience. Nous devons faire une petite étude verbale à ce stade. Parce que si vous lisez l'ancienne version King James, que j'aime beaucoup, le mot patience est long-suffering, qui signifie littéralement « souffrir longtemps ». Et qui est traduit en français par patience. Et là, patience signifie endurance. Vous suivez? Ce n'est pas la même chose. L'endurance est active, La patience est passive. Il est dit dans Hébreux 12, verset 1, courons avec persévérance ou endurance dans la carrière qui nous est ouverte. Voilà qui est actif. La patience est plus difficile. Elle signifie attendre. C'est prendre de la distance, laisser les choses se faire, laisser Dieu prendre l'initiative. Et vous verrez que la plupart des grands serviteurs de Dieu sont passés par de véritables tests de patience. Pensez à Moïse. 40 ans au fin fond du désert à garder des moutons. Abraham, lui, avait reçu la promesse pour un fils, et il l'a attendu 25 ans, jusqu'à ce qu'il ait 100 ans. David, qui avait été oint pour la royauté, a passé les 10 ou 12 ans suivants à fuir devant le roi en place. Et dans nos vies aussi, frères et sœurs, il y a certaines choses qui n'arriveront qu'à ceux qui sont patients. Si vous êtes du genre impatient, vous devancerez Dieu, vous lui volerez l'initiative. Lisons à propos d'Abraham dans Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12. Je lis dans la nouvelle version King James, où le terme « long-suffering » a été remplacé par « patience ». Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Cela signifie l'endurance et la patience jusqu'à la fin. En sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Certains vous diront que tout ce dont vous avez besoin, c'est de la foi. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de foi, mais aussi de patience. Et à propos d'Abraham, au verset 15, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant patiemment persévéré, obtint l'effet de la promesse. » 25 ans plus tard. Pour la plupart d'entre nous, il y a bien des moments dans notre marche avec Dieu où il nous demande d'exercer la patience. Et cela fait partie des conditions pour être formé en tant que disciple. Voyez-vous, c'est l'enseignant qui fixe l'emploi du temps, pas l'élève. Vous ne décidez pas en tant qu'élève de Dieu quand il va vous enseigner et ce qu'il va vous enseigner. C'est lui qui décide du moment et du sujet. Et pendant tout le processus, il ne fait pas que vous communiquer des informations. Il forme votre caractère. Continuons. Une autre vérité importante. Pour être capable un jour de diriger, il faut d'abord servir. C'est très succinctement affirmé par Jésus dans Matthieu 20, versets 26 à 28. C'est à propos d'une querelle parmi les disciples, pour savoir lequel d'entre eux allait être le chef dans le royaume. Jésus ne les reprend pas. Il les instruit et leur dit, au verset 25, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. C'est l'image de l'autorité dans le monde. J'ai passé 5 ans à former des professeurs africains pour les écoles africaines du Kenya. Et j'ai découvert que les enseignants africains s'imaginaient qu'avoir de l'autorité, c'était avoir une grosse trique et crier fort. Les classes étaient construites de telle sorte qu'il n'y avait pas de mur de séparation entre les différentes classes. Alors, vous aviez un enseignant qui criait dans une classe et un autre qui criait dans une autre. On ne s'entendait plus. J'ai dû m'occuper de cela et dire « Écoutez, l'autorité n'a rien à voir avec le fait d'avoir un bâton ou de crier. En fait, c'est justement le contraire. Si vous avez besoin du bâton et des cris, c'est que vous n'avez pas d'autorité. C'est complètement différent. » La clé pour avoir de l'autorité, c'est d'être soumis soi-même à une autorité. Si vous êtes sous une autorité, vous avez de l'autorité. Voici ce que Jésus leur dit. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Vous ne penserez pas et n'agirez pas comme le monde le fait. C'est l'un des plus grands problèmes de l'Église. Beaucoup d'autorités et de leaders se basent sur un modèle humain, selon le monde. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Remarquez que si vous voulez être grand, vous devez devenir serviteur. Mais si vous voulez être premier, vous devez devenir esclave. Autrement dit, plus vous voulez aller haut, plus vous devez aller bas. C'est le moyen de la promotion. J'ai un livre qui s'intitule « Pour s'élever, il faut s'abaisser ». Celui qui s'humilie sera élevé. C'est sûr, c'est garanti, ce principe marche dans tout l'univers. Il y a quelques années, un jeune homme est venu me voir. Il avait environ 20 ans. Et il avait fait une rencontre merveilleuse et miraculeuse avec le Seigneur. Il est venu me voir et m'a dit « Frère Prince, je voudrais vous servir ». J'ai réfléchi et je me suis dit que je n'avais pas besoin de lui. Je me débrouille bien tout seul, j'aime être libre de mes mouvements, et je n'étais pas sûr de vouloir quelqu'un toujours avec moi, observant toutes mes activités lorsque je ne prêchais pas. Alors je me préparais à lui dire « C'est très aimable, mais non merci, ce n'est pas nécessaire ». Mais le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Si tu ne le laisses pas te servir, tu l'empêcheras d'avoir une promotion ». Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour obtenir une promotion que le service. Alors j'ai accepté. C'était un jeune homme doué. Il avait travaillé comme serveur durant ses années d'études. Les gens qui ont été serveurs ou serveuses savent comment servir. Il était remarquable. Très souvent, il anticipait mes besoins, avant même que j'en aie conscience, et il m'a donné beaucoup de leçons. Aujourd'hui, c'est un bon leader. Il a appris en servant. Vous, les jeunes, écoutez. Si vous trouvez un chrétien plus âgé que vous, ouvrier pour le Seigneur, et qui vous laisse le servir, soyez reconnaissant. Parce que ce n'est pas toujours possible. J'ai eu des centaines de jeunes hommes qui sont venus me dire « Laissez-moi porter votre valise ». Et j'ai dû répondre « Je suis désolé, mais c'est impossible. J'ai déjà quelqu'un qui porte ma valise ». J'en suis toujours désolé parce que je réalise que leur motivation est selon Dieu. Et qu'il n'y a pas d'autre moyen de promotion dans le royaume que de servir. Dieu peut enseigner directement et par l'intermédiaire d'un serviteur plus expérimenté. Mais quand il choisit une personne pour commencer quelque chose de nouveau, il enseigne cette personne directement. Parce qu'il n'y a pas de modèle existant. Personne n'a jamais fait le travail de cette façon pour pouvoir l'enseigner ensuite au suivant. Je crois qu'en fait, dans ma vie, la plupart du temps, Dieu a dû m'enseigner directement, parce qu'il n'y avait personne de qualifié pour le faire. Je crois qu'en un sens, le ministère que Dieu m'a donné, c'est de découvrir ou de redécouvrir et d'appliquer la vérité biblique. De façon constante, à travers mon expérience, j'ai été poussé dans des domaines de vérité que l'Église a largement ignorés. Il n'y avait donc personne là pour m'enseigner. J'espère que cela ne vous semble pas trop arrogant, mais c'est ainsi que ça s'est passé dans ma vie. Dieu m'a envoyé dans le désert d'Afrique du Nord pendant 3 ans. C'est vraiment un endroit très biblique pour être enseigné. Environ 6 semaines après ma conversion, l'unité de l'armée britannique dans laquelle je me trouvais a été envoyée au Moyen-Orient. Et j'ai passé les 3 années suivantes dans les déserts d'Afrique du Nord. Croyez-moi, vous ne connaissez pas le désert tant que vous n'avez pas vu ceux de l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de choses à dire sur le désert. Et vous vous rendez compte que beaucoup de serviteurs de Dieu ont dû passer par là. Je vais vous dire quelque chose à propos du désert. Il vous dépouille de tout ce qui n'est pas indispensable et vous ramène à l'essentiel. Il y a 4 choses dont vous avez besoin. Premièrement, de l'eau. Deuxièmement, de la nourriture. Troisièmement, une couverture. Quatrièmement, le transport. C'est tout. J'avais eu une vie très compliquée. Mon esprit était encombré de toutes sortes de théories et de concepts philosophiques. Mais ces 3 années dans le désert m'ont changé. Je ne pouvais pas aller à l'église parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun pasteur. Je n'avais qu'une seule chose, ma Bible. Je l'ai lu en entier plusieurs fois. Ce n'est pas que je ne voulais pas aller à l'église, je ne pouvais pas y aller. Il m'a donc fallu connaître la Bible. Et je dois dire une chose. quand j'ai commencé à aller à l'église, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses dans la Bible qu'on ne me disait pas à l'église. À partir de ce moment-là, j'ai appris à toujours juger l'église à travers la Bible et pas la Bible à travers l'église. Souvent, j'ai crié à Dieu et j'ai dit « Sors-moi de là !» Et il ne m'en a pas sorti avant de m'avoir enseigné cette discipline fondamentale. Ma première épouse, Lydia, était danoise. Si vous connaissez un peu les Danois, vous saurez que c'est la race la plus franche d'Europe. Et ma femme était la plus franche des Danoises. Elle me disait souvent « Si tu étais sorti tout droit de l'université, et si tu n'avais pas passé tout ce temps dans l'armée britannique, je ne me serais jamais marié avec toi. » Tout n'était pas fait pour autant dans ma vie, mais ça a été extrêmement important pour moi. Cela m'a ramené sur terre, au lieu de vivre dans un monde de théories philosophiques. J'ai dû côtoyer des gens de notre milieu, qui ne pensaient pas comme moi, qui ne parlaient pas le même anglais que moi, qui n'avaient pas d'arrière-plan universitaire, qui utilisaient un langage épouvantable. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Mais je ne l'ai pas apprécié sur le moment. Pendant un an dans le désert, j'ai été responsable de ce que l'armée britannique appelle une section de brancardiers. J'étais moi-même caporal, j'avais la charge de 8 brancardiers et de 2 chauffeurs qui conduisaient les camions dans lesquels nous voyagions. C'était un 3 tonnes. Et nous avons vécu un an dans ce camion. Nous allions d'un bout à l'autre du désert. J'ai fait la plus longue retraite de l'histoire de l'armée britannique. 1200 kilomètres d'un endroit qui s'appelait El Egala vers un endroit appelé El Alamein. Faire une retraite de 1200 kilomètres est une expérience en soi. Au milieu de tout cela, nous avons traversé un champ de mines anglais. Parce que nous nous étions retirés si vite que nous avons été pris dans nos propres champs de mines. Nous avons dû descendre des camions au milieu de la nuit, et comme les véhicules étaient anti-mines, nous pouvions marcher derrière en sécurité. La fois suivante, j'ai eu la charge de la cantine. J'avais en charge la cantine parce que je ne buvais pas de bière et que je ne fumais pas. On pouvait donc me faire confiance pour ces choses. J'ai pensé que quand nous arriverions, nous pourrions avoir tout ce chocolat, toutes ces choses qui étaient là. C'était une honte de les laisser dans un champ de mine. Alors j'ai appelé les hommes qui étaient autour de moi et je leur ai dit « Je vous vends tout cela à crédit. » Et j'ai vidé le camion. Cela m'a pris des mois pour qu'il me paie. C'est simplement une de ces choses que je n'aurais jamais connues à l'université de Cambridge, dans un milieu différent avec des gens différents. Mais cela faisait vraiment partie de la formation que Dieu voulait me donner. Voici quelques exemples de formation d'hommes de Dieu. Moïse, qu'il a passé 40 ans en Égypte en tant que fils de la fille de Pharaon. Apparemment, il était héritier du trône d'Égypte. Et il est dit qu'il était instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. L'Égypte était un lieu très intellectuel. Il y avait des endroits qui ressemblaient plus ou moins à des universités. Et le pays était dirigé par des prêtres. Moïse avait donc reçu une très bonne éducation. Puis il est sorti, il a essayé de délivrer l'un de ses frères, et vous vous souvenez que son propre peuple s'est retourné contre lui. Et il a dû fuir, et il a passé les 40 années suivantes dans le désert. 40 ans dans le désert à garder quelques moutons, c'est long. Laissez-moi vous le dire. Mais que voulait produire Dieu en Moïse? Je dirais la patience. Et croyez-moi, quand vous lisez le récit de la façon dont il a fallu s'occuper des enfants d'Israël, il avait besoin de toute la patience imaginable. En fait, sa seule erreur a été une faute d'impatience quand il s'est fâché parce que le peuple de Dieu a demandé de l'eau. Il a alors frappé le rocher et s'est écrié « Écoutez donc, Repel, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Et cela lui a valu de ne pas entrer dans le pays promis. Il est très intéressant de voir à travers Moïse la façon dont Dieu œuvre. Voilà un homme qui va conduire le peuple de Dieu hors d'Égypte et infliger à l'Égypte la plus grande défaite de son histoire. Et Dieu dit à Pharaon « Écoute, Pharaon, je veux que tu prennes soin de ce bébé, prends bien soin de lui, nourris-le, enseigne-le, instruis-le, parce que je vais l'utiliser pour détruire ta nation. Vous ne pouvez jamais être plus malin que Dieu. Puis il y a David. David a été oué un roi. Il a dû attendre 10 ou 12 années, et c'est lui qui a dit « Je suis comme une puce ou comme une perdrix dans la montagne. Je ne suis qu'un fugitif. » Voyez-vous, personne ne connaissait le modèle de la royauté pour le peuple de Dieu. Il lui a fallu l'apprendre directement de Dieu. Qu'a-t-il appris ? Eh bien, entre autres choses, il a aussi appris la patience. Je crois que si vous voulez comprendre le processus de l'entraînement de David, vous devez lire les psaumes à la lumière de cette pensée. Voici un homme formé par Dieu pour être roi du peuple de Dieu. L'une des choses que presque tous les serviteurs de Dieu doivent expérimenter, c'est le rejet. Et il y en a très peu qui n'ont pas été rejetés à un moment ou à un autre par les gens même qu'ils allaient devoir conduire. Ainsi, si cela vous arrive, chers frères ou sœurs, ne vous asseyez pas et ne pleurez pas trop longtemps. Levez-vous et continuez votre travail. C'est vrai, même dans l'histoire du monde, très souvent le leader que Dieu veut susciter a été rejeté. Comme Winston Churchill qui a été mis de côté, mais Nahum Begin aussi. Mais ils sont devenus des leaders selon le choix de Dieu.
Jean-Baptiste. Il est dit qu'il était dans le désert jusqu'au jour où il s'est montré en Israël. Et comment a-t-il été enseigné ? Dans le désert lui aussi. Vous connaissez les monts de Judée ? Vous savez qu'ils sont assez rudes. C'est un terrain de défi. En général, Dieu ne donne pas un contexte facile quand il forme quelqu'un. Paul. Il n'est pas allé auprès des autres apôtres pour être formé. Il est allé en Arabie. Et où ? Dans le désert, exactement lui aussi. Et là, il a eu la révélation de ce qu'il appelle « mon évangile ». N'est-il pas étonnant qu'un homme puisse dire « mon évangile » ? Jésus. Il a été enseigné directement par le Père. Vous devez lire les évangiles à la lumière de cela. Regardons le modèle de Jésus un instant. Dans Jean 5, versets 19 et 20, Jésus parle de son ministère. Jésus reprit la parole et dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus n'a jamais pris l'initiative. Il n'a fait que ce que son Père lui montrait et lui enseignait. Il était le disciple parfait. Si vous suivez le parcours de Jésus, vous verrez que pas une seule fois, il n'a refusé de laisser l'initiative au Père. Puis, au verset 26 et 27 du même chapitre, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Tout ce qu'il avait venait du Père. » Puis dans Jean 14, versets 9 et 10, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jésus dit donc, « Mes paroles et mes œuvres viennent du Père. Je ne fais rien de moi-même. » Et si vous voulez une image prophétique de l'Ancien Testament, regardez Ésaïe 50 un instant. Versets 4 à 6. C'est une annonce prophétique de Jésus. Ésaïe 50, versets 4 à 6. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. » pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai pas résisté. Nous comprenons donc que Jésus commençait la journée en écoutant l'Éternel. Il avait les instructions du Père pour la journée. Combien d'entre vous sont d'accord pour dire que c'est une bonne façon de commencer la journée ? Entre parenthèses, la façon dont vous commencez votre journée va avoir une grande incidence sur le reste de votre journée. Un proverbe grec dit « Le commencement, c'est la moitié du tout. » Vous commencez mal la journée et vous aurez une mauvaise journée. Vous commencez bien la journée et vous aurez une belle journée. Jésus est notre modèle. Regardons le modèle de Paul un instant et voyons comment il était enseigné directement par Dieu. Galates 1, versets 15 et 17. Cela fait partie de son témoignage personnel. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, et j'aime cela, non pas de se révéler en moi, mais de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Paul dit donc très clairement qu'il n'a pas été enseigné en premier lieu par les disciples ou les apôtres, mais directement par Dieu, dans un lieu isolé en Arabie. Quand on considère le ministère de Paul, il est très clair que les autres disciples n'auraient jamais accepté la révélation de l'Évangile aux païens. Même quand Paul l'a reçu, cela leur a à de nombreuses reprises posé des problèmes. Vous voyez, quand Dieu veut commencer quelque chose de nouveau, il doit enseigner la personne directement. Parce que s'il met cela entre les mains de dirigeants existants, il en sortira quelqu'un comme eux. Ne soyez pas effrayés, frères et sœurs. Si Dieu choisit de vous mettre à son école, c'est un honneur. Et cela signifie qu'il a quelque chose à faire pour vous, dans votre domaine particulier d'activité, et que personne dans votre entourage n'est compétent pour vous enseigner. N'en retirez pas d'orgueil, mais soyez réalistes. De notre côté, si Dieu vous donne le privilège d'être enseigné par un serviteur plus expérimenté, remerciez Dieu pour cela et pour le serviteur, et soyez un bon serviteur pour ce serviteur. Vous connaissez l'histoire de l'une des deux premières femmes de David, Abigail. Elle a dit quelque chose d'absolument merveilleux et qui a toujours touché mon cœur. Quand David a envoyé ses serviteurs pour lui demander d'être sa femme, elle a répondu « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et pour moi, c'est l'image parfaite de l'attitude du serviteur.
« Je ne vais même pas laver les pieds de l'Éternel, je laverai les pieds du serviteur de l'Éternel. » Et savez-vous que laver les pieds dans la Bible représente toujours l'image de l'humilité et du service ? Si vous regardez dans Éphésiens 3, versets 1 à 7, vous verrez que cela renforce l'idée que Paul n'a pas été enseigné par les apôtres qui l'ont précédé. Nous en arrivons à ceux qui ont été enseignés par un autre serviteur. J'ai mis là 4 ou 5 exemples. Je vous invite à voir si vous êtes d'accord avec moi. Moïse a enseigné Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Et il a passé son temps avec Moïse. Quand le temps est venu pour Moïse de partir, il a imposé les mains à Josué et il lui a transmis l'esprit de sagesse pour qu'il prenne la direction du peuple. C'est vraiment un exemple parfait de l'enseignement par un humain. Élie a enseigné Élisée. Il est dit qu'Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est un acte de service. Il suivait Élie partout où il allait. Il n'était pas comme les étudiants de l'école biblique qui ne viennent que pour regarder. Il était engagé. Pour moi, c'est l'un des personnages les plus fascinants de la Bible. Il est soudain apparu devant le roi Achab et il lui a dit « À partir de maintenant, Achab, il ne pleuvra plus sur ton royaume. Il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je prie pour qu'elle revienne. » C'est un personnage fabuleux. Il ne pouvait pas quitter ce monde de façon ordinaire. Il fallait qu'il s'en aille dans un char de feu. Que pouvait-il faire d'autre ? Puis, il y a Jésus et ses 12 apôtres. Bien évidemment, Jésus a enseigné les 12 apôtres. Il les a entraînés, équipés. Il leur a montré un modèle. Puis nous avons Paul, enseigné par le Seigneur, mais Paul à son tour a enseigné Timothée et d'autres. Et il y a beaucoup d'exemples des deux façons d'être formés en tant que disciples. Pour terminer, et comme modèle, j'aimerais brièvement voir le processus d'enseignement de Timothée. Il y a 7 étapes. Il n'est pas certain que tous nous passions par ces étapes. Mais je crois qu'en un sens, ces 7 étapes sont le modèle parfait de l'enseignement. Premièrement, il a été enseigné dans les Écritures dès son enfance. Il n'y a rien qui remplace cela. 2 Timothée 1, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Dans le même épître, chapitre 3, verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas tous cette bénédiction, mais c'est vraiment la plus formidable des bénédictions. Je n'ai pas grandi dans ce que nous appellerions un foyer chrétien, mais je suis allé dans des écoles où je devais aller à l'église tous les matins, contre mon gré la plupart du temps. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu connaître les textes de la Bible à travers cela. Cette Bible, je l'ai mise de côté, je l'ai abandonnée, je l'ai rejetée. Et 10 ans plus tard, après avoir fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, et après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, vous savez, c'est comme si j'avais lu tous ces versets de la Bible la veille. Ils me sont revenus instantanément. Et les gens qui me connaissaient ne pouvaient pas comprendre comment je pouvais leur citer la Bible. J'ai donc eu cette bénédiction. Ensuite, Timothée a eu l'approbation de l'église locale. C'est extrêmement important. Et je crois que c'est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous doivent prêter attention. Acte 16, Paul va à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Il avait acquis une bonne réputation dans son église locale, et il n'y a rien qui remplace cela. Je réalise que parfois les églises locales ne sont pas ce qu'elles devraient être. Mais je vous dis qu'il vaut mieux faire des sacrifices personnels pour prendre sa place dans l'église locale et prouver qu'on veut servir. Il y a des années, quand ma première femme Lydia et moi travaillons à Jérusalem, une Suédoise nous avait été recommandée pour nous aider. Lydia avait du discernement et elle a dit « Je ne la veux vraiment pas ». Mais la mission de Suède qui la soutenait voulait vraiment nous l'envoyer. Alors nous avons répondu « Envoyez-nous des références et nous verrons quel genre de personne elle est ». Nous est alors parvenue une liasse de références. Mais en l'étudiant, ma femme fit remarquer « Il manque une référence ». Il n'y a rien de son église. Eh bien, elle est venue, et ça a été une catastrophe. Et j'ai retenu la leçon. Si une personne ne peut pas être recommandée par son église, faites attention. Troisièmement, Timothée a été appelé et nommé souverainement et de façon surnaturelle. Et je voudrais souligner que dans le destin de chaque personne chrétienne, il devrait y avoir un élément surnaturel. Je ne crois pas que nous puissions planifier simplement sur le plan naturel. À un certain moment, Dieu doit intervenir. C'est ma volonté, c'est l'homme que j'ai choisi, c'est ce que j'ai choisi que tu fasses. Regardons certains passages de Paul à Timothée et vous verrez la part importante jouée par la prophétie dans la vie de Timothée. 1 Timothée 1, 18. Et le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Timothée était dans une situation difficile, il avait des problèmes, et Paul lui dit, « Je veux te rappeler les prophéties qui t'ont précédé. Je veux te rappeler que Dieu t'a choisi. Dieu t'a placé dans ce lieu, n'abandonne pas. Combien d'entre vous sont d'accord pour dire que nous avons souvent besoin de cela ? Très souvent, je me suis souvenu de paroles que Dieu m'avait données, et si je n'avais pas eu ces paroles, je ne sais pas si j'aurais continué ou pas. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ici, le mot don, c'est charisma. Je crois que les anciens de l'église de Lystre, d'où Timothée était originaire avec Paul, lui ont imposé les mains et qu'il a eu une prophétie du genre « Oui, j'ai choisi ce jeune homme pour voyager avec Paul. J'ai un plan pour lui. » Et il est devenu apôtre. Le charisma était là. Je le crois personnellement. C'était l'apostolat. Et encore un autre passage dans 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il y avait là un élément surnaturel dans le destin de Timothée. Je ne me contenterai pas de moins. Je ne crois pas que notre raisonnement naturel puisse ouvrir une voie. Jérémie dit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Nous devons avoir à un moment donné quelque chose de plus élevé que le niveau naturel. Aujourd'hui, quand je cherche la volonté de Dieu pour quelque chose, l'une des choses que je me demande, c'est où se trouve le surnaturel dans tout cela. J'ai été dans de si nombreuses situations dans lesquelles les chrétiens se sont assis, ont discuté, planifié, raisonné, et rien de significatif n'a été accompli. Parce qu'ils l'ont fait sans l'intervention surnaturelle de Dieu. L'étape suivante pour Timothée. Il a servi Paul en tant qu'apprenti. Nous allons simplement lire un passage dans Philippiens 2, 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. C'est ainsi qu'il a fait ses preuves, en servant Paul. Et j'aimerais vous dire, jeunes gens, que vous ne pourrez pas avoir de plus grand privilège que de servir un serviteur de Dieu plus âgé. Remerciez Dieu, tombez sur votre face et remerciez-le si Dieu fait cela pour vous. Puis il a servi en tant que délégué de Paul. Vous voyez, c'est un pas de plus. Premièrement, il était avec Paul, il a regardé ce que Paul faisait, il l'a aidé. Puis Paul a pu l'envoyer à d'autres endroits et dire « Voici Timothée, il me représente, il va vous dire ce qu'il faut faire. » C'est la même chose que si c'était moi. 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Paul en était arrivé à faire confiance à Timothée pour enseigner ce qu'il aurait lui-même enseigné. Il avait vu Timothée, il avait été assez longtemps avec lui, il lui faisait confiance, il pouvait le laisser aller de sa part. L'étape suivante a été de le laisser conduire son propre ministère. Paul était sur le point de passer dans l'autre monde, il allait quitter la vie. Je vous le dis, 2 Timothée est devenu une si merveilleuse épître pour moi. J'y reviens encore et encore. C'est un chef-d'œuvre d'écriture, en plus de son contexte spirituel. Et je crois que je pleure toujours en lisant ces paroles. Le 4e chapitre, versets 1 à 6. Remarquez d'ailleurs l'expression « Je vous charge ». Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est très solennel, n'est-ce pas ? Quelque part ailleurs, Paul dit « Et les anges élus ». Nous devons nous souvenir que les anges du ciel nous regardent. Leurs yeux sont sur nous. Nous ne sommes pas simplement un groupe insignifiant, quelque part dans un coin. Toute l'attention du ciel est dirigée vers nous. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'était pas évangéliste, il était apôtre, mais il pouvait faire le travail d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Puis il continue, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul dit, Timothée, j'ai beaucoup investi en toi, je m'en vais. Continue, sois fidèle. Et la dernière étape, nous pouvons le dire rapidement. Il a enseigné les autres comme lui-même il avait été enseigné. 2 Timothée 2, verset 2. C'est un passage facile à retenir. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez-vous, il y a 4 générations. Paul, Timothée, les hommes fidèles enseignés par Timothée, et les hommes fidèles enseignés par les hommes fidèles enseignés par Timothée. Vous voyez, c'est la façon dont Dieu continue son œuvre. Pour tout renseignement, ou pour obtenir le catalogue des livres et cassettes actuellement disponibles, et pour recevoir gratuitement les lettres d'enseignement trimestrielles, contactez-nous à DPM France, boîte postale 31, 34 210, Olonzac. Numéro de téléphone, 04 68 91 38 72. À bientôt.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.